Une semaine d'actualité. Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue. Nous sommes ensemble pour revivre 7 jours d'événements couverts par les journalistes et les correspondants de RFI. Et pour commenter cette semaine d'actualité qui va nous emmener de Téhéran à Abidjan en passant par Washington, nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Stora. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste du Maghreb contemporain, président du Musée national de l'histoire de l'immigration, Porte Dorée à Paris. Et vous publiez chez Stock, 68 et après, sous-titré « Les héritages égarés ». Alors pour les 50 ans de mai 68, beaucoup de livres sont parus, mais le vôtre est particulier parce qu'il est très personnel, il fourmille d'anecdotes. Vous l'avez écrit à la fois en tant qu'acteur de mai 68 et en tant qu'historien, et vous analysez avec beaucoup de distance vos engagements, vos idéaux de l'époque et surtout ce qui s'est passé ensuite, votre évolution politique et celle de vos camarades de lutte jusqu'au naufrage l'an dernier de la gauche traditionnelle et du Parti socialiste. Est-ce que c'est un livre, Benjamin Stora, sur les illusions perdues ?
Bien sûr que c'est un livre là-dessus. C'est un livre sur la force d'un engagement, la puissance de cet engagement tout au long des années 70 qui a été énorme pour toute une partie de ma génération. Je le dis dans le livre, on l'a oublié aujourd'hui, mais des dizaines de milliers de jeunes se sont entrés en politique dans les années 70, dans l'après-68, à travers toute une série d'organisations d'extrême-gauche qui composaient ce que j'appelle dans le livre une petite armée, en fait, de 15 à 20 000 militants extrêmement organisé à travers les organisations trotskistes et maoïstes.
Dont vous avez vous-même fait partie.
Dont j'ai fait partie, une organisation trotskiste.
Lambertiste.
Lambertiste, l'OCI, dont j'ai été membre de la direction et responsable de ce qu'on appelait le travail étudiant, notamment jusqu'au moment de la réunification syndicale de 1980, l'UNEFID, dont j'ai été un des principaux artisans. Donc c'est dire toute la force et la puissance de cet engagement. Et à partir de là, bien sûr, il y a les désillusions à la hauteur de ces espérances, de je ne dirais pas trahis, mais de ces espérances abandonnées par quelques-uns de mes camarades, et peut-être aussi un peu par moi-même d'ailleurs, hein, parce que je me suis retiré de la politique.
Vous pensez qu'il y a une responsabilité collective de la génération post-68 dans ce qu'est devenu la France en 2018, ou est-ce qu'il faut chercher du côté des dérives individuelles ?
Moi, je pense qu'il y a eu à la fois des dérives individuelles, de gens qui sont entrés à l'intérieur des partis politiques pour faire carrière. Certains sont devenus ministres, ont occupé des très hautes responsabilités, bien sûr, dans l'appareil d'État. Mais c'est aussi plus fondamentalement une société qui a profondément changé dans les années 80 avec la montée en puissance de l'individualisme, de l'affairisme. Dans les années 80 et 90, une société aussi où il y a eu effondrement des idéologies collectives, en particulier du communisme et du socialisme après la chute du mur de Berlin, et donc le refuge qui a été pour certains dans les religions, dans le communautarisme, dans l'affaiblissement du modèle républicain français. Bref, toutes ces questions-là ont beaucoup joué dans les 20 ou 30 dernières années, qui explique en grande partie, selon moi, le recul du politique.
Alors, tout à l'heure, vous parliez de l'engagement de milliers de jeunes après mai 68. Mais comment expliquez-vous qu'on associe toujours mai 68 à une soif de liberté, de révolte contre l'ordre établi, et que dans les années qui ont suivi, vous-même comme des milliers d'autres, vous avez rallié des organisations d'extrême-gauche dont le fonctionnement était extrêmement autoritaire, où l'on devait obéir aveuglément à un chef. Est-ce que l'esprit de 68 n'a pas été rapidement confisqué par quelques-uns ?
Parce que l'esprit de 68 était beaucoup plus compliqué qu'un aspect simplement festif et de libération personnelle, morale, individuelle, voire sexuelle. C'était plus que ça, 68. C'était une grande grève ouvrière, d'abord. Et c'était aussi le moyen pour toute une série de jeunes de cette époque-là de se mesurer à la génération précédente. Et il y avait par conséquent aussi, dans la volonté de rupture avec la société, cette rupture avec un mode de vie traditionnel. Et la rupture et la transgression passait aussi par des organisations extrêmement structurées. C'est-à-dire que la force de la transgression se mesurait aussi au type d'engagement très dur léniniste, parce qu'on a gardé de 68 surtout, vous savez, cet aspect festif, hippies, etc. Mais en fait, dans l'après 68, beaucoup de jeunes engagés étaient beaucoup plus dans des organisations de type marxiste-léniniste que le fait d'aller à la campagne fonder des communautés rurales.
Hein. Et certains rêvaient d'un recours à la force.
Oui, absolument. Et la violence était aussi dominante dans les discours. La tentation terroriste a existé aussi, ne l'oublions pas. On est passé pas très loin en France, à la différence de ce qui s'était passé en Italie et en Allemagne, par exemple. Pour toute une série de raisons, on est passé à côté, mais pas très loin. On est passé pas très loin de cette histoire-là, et certains d'ailleurs ont été tentés par de ce passage, bien entendu. Donc il y avait, par conséquent, dans l'esprit, dans l'après 68, aussi cette volonté de structuration, de substitution, j'allais presque dire, d'une famille par une autre. D'une famille révolutionnaire qui dessinait des contours très précis, etc. Mais aussi, bien sûr, il a fallu se détacher et à nouveau faire des transgressions et des ruptures par rapport à ce mode de pensée extrêmement fermé, rigoureux, dogmatique. Et ça a été les années 80, bien sûr.
Une semaine d'actualité.
Benjamin Stora, on reviendra tout à l'heure sur votre livre, mais je vous propose maintenant de revivre les moments marquants de l'actualité de la semaine. On va commencer par l'international, avec le rétablissement mardi des sanctions américaines contre l'Iran, suite logique du retrait des États-Unis en mai de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances. Donald Trump ne ferme pas pour autant la porte à de nouvelles négociations, ce qui lui a valu une réponse cinglante des autorités iraniennes. Téhéran pour RFI, Siavoj Ghazi.
Dans sa première réaction aux sanctions américaines, le président Hassan Rouhani a affirmé qu'on ne pouvait pas à la fois vouloir des négociations et imposer des sanctions contre l'Iran.
Qu'est-ce que cela signifie d'imposer des sanctions et de proposer dans le même temps des négociations? Si quelqu'un sort un couteau et le plante dans le bras de son ennemi en lui demandant en même temps de négocier, la réponse est qu'il doit d'abord remettre son couteau dans sa poche, puis venir à la table des négociations, avec la logique des négociations. Les Américains cherchent à créer le doute chez les Iraniens en menant une guerre psychologique.
Dans son intervention télévisée, le président Rouhani a donc rejeté toute négociation avec les États-Unis dans la situation actuelle. Avant même leur entrée en vigueur, les nouvelles sanctions américaines ont durement touché l'économie iranienne, avec une chute vertigineuse de la monnaie iranienne. Cette chute a provoqué une très forte augmentation des prix de tous les produits, notamment de consommation courante. Dans les magasins, certains produits commencent à manquer, ce qui accentue encore les craintes de la population.
Encore des sanctions américaines contre la Russie cette fois. Moins d'un mois après la lune de miel du sommet d'Helsinki entre Vladimir Poutine et Donald Trump, l'heure est à nouveau à la confrontation. Les États-Unis veulent punir Moscou, impliqué selon eux dans l'affaire Skripal, cette tentative d'assassinat au Novichok, un agent neurotoxique d'un ex-agent double russe et de sa fille en Angleterre en mars dernier. À New York, Grégoire Pourtier.
Les États-Unis ayant officiellement la certitude que Moscou est bien responsable de la tentative d'assassinat de Sergueï Skripal et en vertu d'une loi de 1991 contre l'utilisation d'armes chimiques et biologiques, une batterie de sanctions économiques sera déclenchée dans 2 semaines. En fait, le Congrès demandait depuis plusieurs mois que ces mesures soient prises et la Maison-Blanche traînait des pieds. Mais interpellé par plusieurs élus, notamment de la majorité républicaine, et embourbé dans le flou ayant suivi la rencontre d'Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine, l'administration n'avait plus vraiment d'autre choix que d'imposer des sanctions théoriquement automatiques si un pays se rend coupable d'utilisation d'armes chimiques. La première vague de sanctions, telle que prévue par la loi, devrait avoir un impact limité dans la mesure où la Russie est déjà soumise à d'importantes restrictions. Mais la deuxième vague, qui doit tomber dans 3 mois, pourrait-elle être beaucoup plus conséquente? À noter enfin que les États-Unis ont déjà utilisé ce texte cette année, c'était en mars contre la Corée du Nord, après l'assassinat du demi-frère de Kim Jong-un au moyen d'une substance neurotoxique. Coïncidence, la décision avait été rendue publique quelques heures après l'empoisonnement de Skripal.
Benjamin Stora, en dénonçant l'accord sur le nucléaire, en prenant de nouvelles sanctions contre l'Iran qui risquent d'étrangler l'économie iranienne, est-ce que vous pensez que les États-Unis, sous la houlette de Donald Trump, espèrent faire tomber la République islamique ?
C'est en tout cas la volonté exprimée par Donald Trump lui-même, bien entendu. Et on peut réfléchir à cette politique américaine d'aujourd'hui qui est une politique très punitive. Des sanctions contre l'Iran, des sanctions contre la Russie, des sanctions contre la Chine, une guerre guerre commerciale contre les États-Unis, contre l'Europe, pardon. Et donc, on a le sentiment, comme ça, d'un dispositif qui se met en place, presque de mise en guerre, en fait, fondamentalement, et de punition adressée à tous les autres pays. Mais il faut s'interroger sur le fait que, de savoir si c'est une nouveauté, si c'est une rupture dans la politique américaine traditionnelle, ou si au contraire, et c'est plutôt mon avis, dans le fond, la politique américaine se durcit en apparence, mais dans le fond se poursuit. Parce que les sanctions contre la Russie, contre l'Iran, la guerre commerciale avec l'Europe, ça fait longtemps que ça existe. Simplement, le verbe a changé. Mais je crois qu'on a une suite, un dévoilement, d'une politique américaine extrêmement dure contre le reste du monde dans une situation de protectionnisme avéré et de souverainisme politique tout à fait mis en place maintenant depuis plusieurs années et pas simplement avec Donald Trump. Et puis la deuxième réflexion que cela m'inspire, c'est dans le fond à terme, est-ce que toutes ces mesures et toutes ces sanctions ne vont pas se retourner contre les États-Unis elles-mêmes, c'est-à-dire contre la machine économique américaine sur le long terme, parce que nous sommes entrés dans une économie complètement mondialisée et on le voit à travers différents exemples, par exemple récemment la semaine dernière, une usine comme BMW qui emploie énormément d'ouvriers aux États-Unis, plusieurs milliers d'ouvriers. Les sanctions que l'administration américaine voulait imposer à l'Allemagne en termes de guerre commerciale, eh bien, n'ont pas pu avoir lieu parce qu'il y a une grande partie de l'électorat de Trump, composé d'ouvriers blancs aux États-Unis, qui allait être mis sur le carreau par rapport à cette politique. Donc, quelque part, il y a une interrogation là-dessus. Puis enfin, il y a une troisième interrogation qu'on peut avoir. Dans le fond, c'est la contradiction qui existe entre les intérêts américains, les intérêts économiques américains, défendus de manière très dure par les administrations américaines, mais aussi la contradiction avec les valeurs américaines prononcées, c'est-à-dire la démocratie, la fin des dictatures, le combat contre les tyrannies. On connaît tout ce discours qui est développé sur la question des droits de l'homme en particulier, etc. Par exemple aussi les droits des femmes dans le monde. Bon. Or, il y a là une contradiction qui de plus en plus devient manifeste entre défense stricte des intérêts économiques américains et le fait de promouvoir des valeurs américaines, disons traditionnelles, en termes de défense des droits de l'homme. Il va falloir à un moment donné choisir entre ces deux termes.
On va s'intéresser maintenant à ce qui se passe au Yémen. Au moins 29 enfants ont été tués jeudi lorsque le bus qui les transportait a été visé par une frappe de la coalition arabe dirigée par l'Arabie Saoudite. Riyad affirme que le bus transportait des combattants houthis qu'elle accuse de se servir d'enfants comme de boucliers humains. L'ONU réclame une enquête indépendante et rapide. Muriel Paradon.
Les images diffusées par les médias arabes font froid dans le dos. Des corps d'enfants ensanglantés alignés les uns à côté des autres, d'autres blessés et complètement hagards. Selon le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui soutient un hôpital dans la région, la plupart des victimes sont âgées de 10 à 14 ans. Le bus transportant des enfants a été touché par une frappe aérienne en se rendant sur le marché de Dayan, au nord de Saada, un fief des rebelles houthis. Les houthis sont en guerre depuis près de 4 ans avec le gouvernement yéménite et occupe la moitié nord du pays. Une coalition menée par l'Arabie Saoudite appuie le gouvernement et bombarde régulièrement les Houthis, mais elle est accusée de faire de nombreuses victimes civiles. Concernant l'attaque de ce matin, elle affirme que les frappes étaient légitimes car elles visaient des lanceurs de missiles menaçant une ville industrielle saoudienne. Le CICR de son côté juge déplorable ces nouvelles frappes touchant des civils et appelle au respect du droit humanitaire international.
Benjamin Stora, est-ce que les dirigeants occidentaux et les médias se sont enthousiasmés un peu trop vite pour le jeune et très impulsif prince héritier saoudien, Mohamed Ben Salman? L'intervention militaire au Yémen en 2015 de la coalition arabe qu'il dirige s'est transformée en une guerre sans fin qui a déjà fait au moins 10 000 morts. Elle provoque un désastre humanitaire au Yémen et ce sont les civils qui payent le plus lourd tribut.
Vous avez raison de parler de l'enthousiasme possible des dirigeants occidentaux qui quelquefois s'enthousiasment trop vite. On se souvient par exemple de l'arrivée au pouvoir de Bachar el-Assad qui avait suscité notamment avec sa jeune épouse un grand enthousiasme dans les pays occidentaux sur la nécessité de passer à un état démocratique en Syrie après son père Hafez al-Assad. On a vu ce qui s'est passé par la suite. Donc il faut effectivement regarder les choses et mesurer les faits et non pas juger en fonction simplement de l'âge, des générations passées ou des discours prononcés. Il faut juger sur les faits. Or, les faits, pour l'instant, c'est que l'Arabie saoudite est engagée dans une guerre atroce au Yémen. Une guerre oubliée, une guerre lointaine, une guerre à huis clos même, une guerre invisible, avec très peu d'images.
Et très peu de journalistes,
très peu de journalistes présents sur le terrain, mais c'est une guerre dans laquelle l'Arabie saoudite n'arrive pas à se désengager. Et puis, l'Arabie saoudite, on le sait, cette semaine, a rompu ses relations diplomatiques avec le Canada sur une question touchant la liberté des droits des femmes.
Oui, il faut rappeler, l'ambassadeur du Canada donc à Riyad avait osé demander la libération des militants des droits des femmes arrêtés récemment. Des arrestations qui contrastent avec, en même temps, les droits accordés aux femmes par MBS, le droit de conduire, par exemple.
Oui, alors là, on est effectivement dans une sorte de contradiction. Mais en même temps, je voudrais dire que, dans le fond, des processus de démocratisation de pays aussi fermés et aussi pris dans le rigorisme religieux sont des processus chaotiques et contradictoires. Donc il faut être patient à ce niveau-là et mesurer encore une fois les progrès accomplis par des faits réels et non pas par des jugements, disons, posés a priori. Ce sont des processus chaotiques. L'Arabie saoudite vient de très loin. Du point de vue de son fonctionnement dans le rapport au monde, dans le rapport à la religion, dans le rapport aux femmes, etc. Moi, je perds pas espoir sur le processus de démocratisation en dépit de ce que je viens d'énoncer sur les deux faits touchant le Yémen particulièrement et les droits des femmes.
We're going to cancel billions and billions of dollars in payments to the United Nations climate change programs and use the money to fix America's environmental infrastructure.
RFI. La Californie dévastée par le pire incendie de son histoire. Une dizaine de morts, un millier de maisons détruites, 123 000 hectares déjà partis en fumée. Les médias américains évoquent le réchauffement climatique comme catalyseur de ces feux gigantesques. Mais les habitants des zones sinistrées restent sceptiques, aussi climato-sceptiques que leur président, comme l'a constaté Eric DeSalve, notre envoyé spécial à Redding, à 350 km au nord de San Francisco.
Vicky et Dave, deux retraités californiens, ont vu le feu dévaster leur quartier. Plusieurs maisons de leurs voisins ont été détruites. À 67 ans, tous deux assurent n'avoir jamais vu un tel incendie.
Never, never in our lives.
Sécheresse, accident, Vicky pense connaître la cause du départ de l'incendie, mais le lien entre réchauffement climatique et feux de forêt évoqué par les médias américains, avis scientifique à l'appui, ne la convainc pas du tout.
Non, ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Cette région a toujours été pluvieuse en hiver et sèche en été.
À Reading, où le climato-sceptique Donald Trump a recueilli 65% des voix en 2016, la majorité des habitants ne croient pas au réchauffement climatique. Pourtant, Gabe Odderdale, porte-parole des pompiers de la ville, prend cette piste plus au sérieux pour expliquer l'intensification des feux gigantesques en Californie.
Cela fait clairement partie de nos discussions en ce moment. Chaque année, on a des feux plus vastes et plus destructeurs, et cela semble de plus en plus fréquent. Quand les températures augmentent, l'humidité baisse, et l'atmosphère devient encore plus chaude, ce qui peut changer beaucoup de choses pour les pompiers. Avec ces feux, nous devons nous préparer au pire en permanence.
Avis partagé par le gouverneur de Californie, très en pointe sur les questions climatiques. La tendance aux incendies records, dit Jerry Brown, est maintenant la nouvelle norme.
Benjamin Stora, le refus de ces Californiens qu'on vient d'entendre d'admettre le réchauffement climatique, c'est de l'inconscience, de l'ignorance ou la foi absolue en la parole de Donald Trump?
Un peu de tout cela à la fois. Je crois qu'on a sous-estimé dans un grand pays comme les États-Unis la force du sentiment religieux et irrationnel. La force des préjugés, la force d'une idéologie qui se dresse contre la science, tout simplement, contre le darwinisme aussi. Et cette poussée d'irrationalité très grande aux États-Unis permet de comprendre le succès de Donald Trump, bien entendu. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas mesuré tout cela. C'est-à-dire que c'est cette espèce de croyance extraordinaire dans le surnaturel, le refus de la parole scientifique, le refus de tout ce qu'on peut considérer comme étant les développements technologiques ou scientifiques de ces dernières années, ont engendré une prolifération de sectes et d'organisations aux États-Unis qui ont massivement appuyé Donald Trump. Trump. Il y a tout un travail de reconstruction d'une pensée positive et scientifique que les démocrates américains doivent entreprendre s'ils veulent un jour effectivement reprendre le pouvoir.
Direction l'Amérique du Sud à présent avec l'investiture mardi en Colombie du nouveau président de droite, Iván Duque. Il a promis de réviser les accords de paix scellés par son prédécesseur, Juan Manuel Santos, avec la guérilla des FARC, Romain Le Maresquier.
Il est attendu comme le messie par une majorité de Colombiens qui espéraient le retour de la droite au pouvoir. Mais il va devoir également affronter la contestation d'une opposition qui promet déjà de nombreuses manifestations. Voilà le premier défi que va devoir relever le nouveau président colombien, Iván Duque, réussir à pacifier un pays très divisé après 8 années de présidence de Juan Manuel Santos. Iván Duque veut réviser les accords de paix signés en 2016 avec les FARC, des accords qui ont permis de mettre un terme à un conflit de plus de 50 ans, un dossier épineux qui risque de créer encore plus de divisions au sein de la population. Autre dossier sensible, les négociations de paix avec l'ELN, l'armée de libération nationale, dernière guérilla active. L'ELN qui discutait avec le gouvernement sortant et qui attend pour sceller un cessez-le-feu la décision d'Iván Duque, mais ce dernier ne s'est pour l'instant pas exprimé sur cette éventualité. Enfin, sur le plan international, son principal défi concernera le Venezuela, un pays qui s'effondre sur le plan économique et dont beaucoup de ressortissants quittent le territoire pour s'installer en Colombie. Iván Duque a promis d'adopter une stratégie qui doit mener le Venezuela vers des élections libres, sans pour autant expliquer comment il comptait s'y prendre.
Le Venezuela, où le pouvoir s'attaque au chef de l'opposition en exil. La Cour suprême a émis mercredi un mandat d'arrêt contre Julio Borges. Nicolas Maduro accuse l'ancien président du Parlement d'être impliqué dans l'attentat, entre guillemets, dont il dit avoir été victime samedi dernier. Julio Borges qui a réagi dans la soirée.
Nous, on nous a accusés de tout. Cela fait des années qu'on nous accuse de survoler Caracas en pilotant des avions, d'être engagés dans des opérations militaires, de retenir des billets vénézuéliens en Colombie avec la complicité du gouvernement colombien, de faire de la traite des blanches, d'être des terroristes. Mais en fait, toutes ces accusations viennent en réponse à notre position très claire qui a fait beaucoup de mal à Nicolas Maduro. Parce que nous avons réussi à promouvoir les sanctions contre lui, parce que nous avons réussi à mettre au courant la communauté internationale de la dette colossale de Nicolas Maduro. Et parce que nous avons refusé de signer sous pression un accord antidémocratique en République dominicaine. Et Maduro ne nous pardonne pas d'avoir tenu cette position. Aujourd'hui, nous avons un message très clair pour Nicolas Maduro. Nous voulons le voir quitter le pouvoir et nous voulons le voir en prison pour les violations des droits de l'homme et pour la destruction de la démocratie et avec l'obligation de rendre aux Vénézuéliens ce qui leur a été volé.
Une semaine d'actualité.
Nous sommes toujours en compagnie de l'historien Benjamin Stora qui publie 68 et après, les héritages égarés chez Stock. Benjamin, en 68, vous aviez 18 ans. 6 ans plus tôt, vous étiez arrivé d'Algérie avec vos parents. Vous écrivez « Le soleil de 68 marque mon entrée réelle dans la société française ». Est-ce que c'est l'exil qui avait fait de vous un enfant solitaire, en marge, vous qui ne vous sentiez pas vraiment intégré à Sartrouville, la banlieue parisienne où vos parents et vous-même vous étiez installés?
Oui, je crois que c'est le parcours classique, disons, d'un enfant d'immigré. Hein. C'est la solitude personnelle, la dispersion familiale. Il y a aussi, bien sûr, la chute vertigineuse sociale de mes parents, puisque ma mère a été obligée de travailler en usine, à l'usine Peugeot, à la Garenne-Beson. Donc on a comme ça cette sensation d'abandon, d'isolement et de solitude qui est propre, je crois, à beaucoup d'enfants d'immigrés hein, qui attendent, qui espèrent, mais qui travaillent beaucoup aussi dans les lycées, dans les écoles pour être les premiers de la classe, bien entendu. Ça aussi, c'est le parcours classique de l'intégration. Et 68 est arrivé comme un moment fraternel, c'est-à-dire un moment où il y a la rencontre avec une France différente qu'on connaissait pas, qu'on soupçonnait pas, qui était effectivement la France des droits de l'homme, la France des grandes séquences politiques révolutionnaires, de la Commune de Paris à la Révolution française, le Front populaire, etc. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'entrée réelle dans une société qui, dans le fond, que je ne reconnaissais pas, que je ne connaissais pas aussi, dont je ne possédais pas les codes, voilà, exactement, que je n'arrivais pas à comprendre, hein, fondamentalement. Et puis là, tout d'un coup, je le disais tout à l'heure, c'est une famille qui s'est mise en place de substitution, dont il a fallu aussi se déprendre pour pouvoir continuer, disons, ce chemin d'intégration.
Et vous dites, qu'en vous engageant, vous avez pris votre destin en main.
Oui, parce qu'il y avait effectivement aussi la pression familiale communautaire qui existait en venant d'Algérie, bien sûr, et donc d'exister par soi-même. C'est-à-dire qu'il y avait aussi cette volonté de tracer sa route.
Votre famille était attachée au rite du judaïsme ?
Oui, oui, oui. Bah, c'était une famille de Constantine. Constantine est une ville d'Algérie très particulière où vivaient en majorité les juifs et les musulmans. Les Européens, comme on les appelait, étaient minoritaires. Donc une famille extrêmement traditionnaliste, avec usage parlé de la langue arabe dans la vie quotidienne, les rites religieux extrêmement développés, qui accompagnaient aussi les rites culinaires, bien sûr. Donc c'était une vie très traditionnelle, une vie dans l'entre-soi, une vie très fermée, une vie en même temps très rassurante. Parce que quand on est dans cette sorte de grande famille de l'entre-soi, eh bien les portes sont ouvertes et puis un enfant peut aller chez les uns, chez les autres. On s'adosse à des univers affectifs très forts, quoi, qu'on va perdre en exil ou dans des situations très différentes et qu'il va falloir retrouver par la suite.
Alors vous racontez en même temps qu'à partir de 68, c'était un motif de fierté de dire « j'appartiens à une minorité, je suis un juif d'Algérie ».
Un des mots d'ordre de 68, ça a été « Nous sommes tous des juifs allemands ».
Comme Cohn-Bendit.
Voilà, lorsque Cohn-Bendit a été expulsé. Alors là, c'est là que je me suis dit « C'est incroyable, dans cette société où on peut se revendiquer de cette manière-là ». C'est à ce moment-là, effectivement, vous avez raison de le dire, que je pouvais revendiquer cette espèce d'arrivée du Sud et d'arrivée d'Algérie, parce que le parcours de l'assimilation visait, et vise toujours d'ailleurs, à gommer les origines. C'est-à-dire que, par exemple, il fallait gommer son accent. Ça, c'était quelque chose de tout à fait décisif, de fondamental. Et tout d'un coup, paradoxalement, il y avait cette possibilité, disons, de se revendiquer d'une origine particulière, même dans des combats de type universaliste.
Sept jours en Afrique.
Et l'événement de la semaine dans l'actualité africaine, c'est la libération mercredi en Côte d'Ivoire de Simone Gbagbo après 7 ans de prison. Le président ivoirien Alassane Ouattara avait créé la surprise 2 jours plus tôt en annonçant l'amnistie de 800 prisonniers, dont l'ex-première dame, condamnée en 2015 à 20 ans de réclusion pour atteinte à la sûreté de l'État. Simone Gbagbo, accueillie par ses partisans en liesse. Le reportage à Abidjan de Frédéric Gara.
Des chants et des slogans à la gloire du FPI et de Simone Gbagbo, on en a entendu toute la journée d'hier à la résidence de la famille Gbagbo à Cocody. Plusieurs centaines de parents, de camarades, d'amis venus accueillir la plus célèbre ex-prisonnière de Côte d'Ivoire.
Elle a fait la prison, tout ce monde que vous voyez. Quand elle était en prison, mais toute la Côte d'Ivoire souffrait. Donc nous espérons bien qu'avec sa libération, nous allons faire un pas vers l'apaisement et la réconciliation.
Philippe Henry d'Akouri Tablé, l'un des cadres du FPI, ex-gouverneur de la Banque Centrale Ouest-Africaine.
Oh, mais pour être heureux, ça, je le suis. Je le suis parce que il y a vraiment très longtemps qu'on attendait ce moment-là. Et ce moment est arrivé. Mais notre bonheur sera total lorsque nous aurons le président Gbagbo avec nous et les militaires qui sont encore en prison et qui n'ont rien à y faire. Nous sommes heureux, nous sommes très heureux. C'était un grand moment pour moi. Moi, je me sens comme le jour où j'ai été libéré de Boundiali.
Devant une foule enthousiaste, Simone Gbagbo prend alors quelques instants la parole pour expliquer que c'est une ancienne page qui est désormais tournée, mais qu'il reste encore à en écrire une nouvelle. Frédéric Gara, Abidjan, RFI.
La fin du suspense en RDC. Joseph Kabila a finalement décidé de ne pas briguer un troisième mandat, interdit par la Constitution. Et le chef de l'État congolais a choisi son dauphin. C'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, qui défendra les couleurs de la coalition au pouvoir à la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Les militants du PPRD, le parti présidentiel, applaudissent.
Ramazani Shadary, il a été au ministère des Affaires intérieures. Il avait résolu aussi vite la situation sur les camps menaçants pour Kassai. Et Ramazani Shadary, le père de temps, qui a été désigné à la tête d'une autre partie, le PPRD, il a réquinqué le parti.
Aujourd'hui, Joseph Kabila vient de démontrer qu'il était un démocrate de conviction et que nous avons fait le choix de la démocratie. Et aujourd'hui, le PPRD vient de montrer que nous sommes réellement le parti du peuple pour la reconstruction et pour la démocratie de ce pays.
En tout cas, c'est un sentiment de grande satisfaction. Je pense qu'avec le temps qui court, il nous faut un candidat comme Emmanuel Ramazan Shadary. Non pas seulement un PPRD pur et dur, mais un patriote de sa trempe.
Les chefs de l'État viennent de confirmer à la face du monde qu'il est d'abord démocrate. En dépit de toutes les pressions, tout ce qui a été dit sur lui, mais là, confirmons aujourd'hui que le Congo est un pays démocratique. Et lui, ce n'est pas la démocratie.
Un trafic d'êtres humains démantelé entre l'Afrique, l'Espagne et la France. 7 passeurs ont été arrêtés. Au moins 300 migrants en ont été victimes de ce trafic. Olivier Sherman.
Ce coup de filet a été mené conjointement par la police espagnole et par l'organisme européen de lutte contre la criminalité, Europol. Et il aura fallu pas moins de 6 mois d'investigation. Les quelques 300 migrants qui seraient rentrés en France de façon illégale seraient originaires de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal. Tout a commencé en janvier dernier. 2 suspects sont arrêtés à la gare routière de San Sébastien en Espagne, près de la frontière française. Ces 2 suspects attendaient l'arrivée de migrants. Les migrants arrivaient en fait en Espagne en bateau. Ils étaient ensuite conduits en France à l'aide de faux papiers d'identité ou en usurpant l'identité d'autres étrangers. Les migrants étaient ensuite entassés dans un appartement avant d'être acheminés vers la France en bus, en train ou avec la complicité d'un chauffeur de taxi. Apparemment, il s'agirait même d'un véritable trafic d'êtres humains, car ces migrants, une fois arrivés en France, étaient revendus à d'autres réseaux qui les obligeaient à se livrer à la mendicité. Le montant de ce trafic est en cours d'évaluation, mais selon les premières estimations des enquêteurs, il pourrait avoir rapporté des centaines de milliers d'euros.
Benjamin Stora, qu'est-ce que vous retenez de cette actualité qu'on vient d'entendre ?
C'est une actualité évidemment tragique. On le sait, il y a toute une économie des frontières qui s'est mise en place. On l'avait vu notamment en Libye, par exemple, ces dernières années, avec les passeurs qui gagnent beaucoup d'argent pour faire traverser la Méditerranée. Cette économie très particulière du trafic qui a pris des proportions considérables maintenant. Mais indépendamment de cette question-là, cette question migratoire nous renseigne sur l'état de fonctionnement de nos sociétés, à la fois de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi en Europe. De l'autre côté de la Méditerranée, parce que il y a beaucoup de gens qui fuient leur pays, pas simplement pour des raisons politiques et économiques, mais aussi, et c'est un phénomène nouveau, pour des raisons climatiques. Et ça, on va le voir de plus en plus dans les années qui viennent. Et puis, ça nous renseigne aussi sur le fonctionnement de nos sociétés, ici même, en Europe, puisque ce sont des sociétés qui se barricadent, disons, de plus en plus, et qui, cette façon de procéder en rétablissant les frontières nationales, à terme, risque, bien sûr, de remettre en question le projet européen, la cohérence, disons, de ce projet, puisque le rétablissement généralisé des frontières, à terme, c'est effectivement une crise très très profonde pour l'Europe.
Est-ce que la gauche, et le PS en particulier, est passée à côté de la question de l'immigration ?
En partie oui, parce que la question migratoire, encore une fois, c'est un marqueur, et un marqueur très fort dans le rapport au monde, dans le rapport aux minorités, dans le rapport au Sud. C'est une question tout à fait centrale, tout à fait décisive, et je ne prendrai qu'un seul exemple sur cette question-là du rapport de la gauche à ce problème, c'est le droit de vote pour les immigrés, qui avait été promis dès 1981, qui a été beaucoup débattu et discuté dans la société et qui n'a jamais été mis en œuvre et
qui
même débattu.
Promis à nouveau par François Hollande.
Qui a été promis sans cesse et qui n'a même pas été débattu dans la société. Parce que l'argument suivant lequel la société serait opposée au vote des étrangers aux élections locales, je dis bien locales, hein, municipales, eh bien on ne sait pas ce que ça aurait pu donner dans un débat, que ce soit dans la société ou à l'Assemblée nationale ou ailleurs, puisque ce projet-là n'a pas été mis en discussion et beaucoup d'enfants issus des immigrations, notamment postcoloniales, n'ont jamais compris pourquoi leurs parents ou grands-parents, qui vivaient en France quelquefois depuis 20, 30 ou 40 ans, n'ont jamais voté.
Est-ce que cette relative indifférence du Parti Socialiste à la question de l'immigration ou cette frilosité par rapport au droit de vote des immigrés aux élections municipales est liée, d'après vous, à la guerre d'Algérie ?
Entre autres, oui, il y a peut-être un rapport entre le socialisme français et la question des guerres coloniales. Je l'ai moi-même expliqué beaucoup, notamment dans un ouvrage que j'ai publié en 2010 qui portait pour titre « François Mitterrand et la guerre d'Algérie ». Donc c'était relativement clair, puisque le passé algérien de François Mitterrand, dans le fond, était très très peu connu, bien sûr. On connaissait beaucoup le passé de Vichy, mais très peu le passé algérien. Donc il y a sûrement, bien sûr, des effets, mais il y a eu en même temps l'irruption, l'apparition d'une nouvelle génération au sein du Parti Socialiste qui s'était opposée, disons, à la SFIO pendant la guerre d'Algérie. Je veux parler bien sûr des grandes personnalités comme celle de Pierre Joxe, de Michel Rocard ou de Lionel Jospin, et qui s'étaient manifestées contre la question coloniale, enfin la colonisation bien sûr. Et ils n'ont pas, une fois arrivés au pouvoir, chacun à leur tour, notamment je pense bien sûr à Michel Rocard qui a joué un très grand rôle sur la Nouvelle-Calédonie, ou de Lionel Jospin qui lui aussi est devenu Premier ministre. Dans le fond, cette question du rapport aux minorités n'a pas été véritablement tranchée.
Pourquoi est-ce que vous aviez déjà, au milieu des années 90, le pressentiment d'une explosion des banlieues françaises, explosion qui s'est produite en 2005 ?
Parce que j'avais le sentiment d'une séparation des mémoires et d'une montée d'un ciment, d'une cohésion autour, non pas simplement de la question nationale, mais d'idéaux communs. Cette séparation des mémoires, elle s'exerçait notamment avec la fin des idéologies collectives comme le socialisme, le communisme, etc. Et donc, une sorte de rapatriement des engagements politiques à travers l'histoire communautaire. Et notamment celle qui n'avait pas été regardée en face par la France, c'est-à-dire la question coloniale et postcoloniale. Et on a assisté tout au long des années 90-2000 à une montée en puissance de l'installation des sentiments identitaires arc-boutés et adossés aux questions liées à la colonisation et à l'esclavage, et qui sont devenus des marqueurs idéologiques, politiques et identitaires très forts, et qui à terme ne pouvaient que conduire à des séparations et des affrontements.
Une semaine d'actualité.
Après l'affaire Benalla, l'Élysée est à nouveau sur la sellette. Son secrétaire général, Alexis Koller, s'est-il rendu coupable de conflit d'intérêts ? Mediapart a publié mercredi de nouveaux éléments embarrassants pour le bras droit d'Emmanuel Macron. Selon le site d'information, Alexis Koller aurait favorisé une entreprise dirigée par sa famille éloignée lorsqu'il était à la direction du port du Havre. L'association Anticor a déposé une plainte pour prise illégale d'intérêts. Julien Chavannes.
Mediapart sort deux documents qui fragilisent la défense d'Alexis Koller. Deux procès-verbaux du conseil de surveillance du port du Havre. On y découvre qu'Alexis Koller a approuvé des contrats avec une filiale de MSC sans faire connaître ses liens familiaux avec l'armateur. Depuis les premières révélations en mai, Alexis Koller dément tout conflit d'intérêts. Ce haut fonctionnaire affirme s'être toujours écarté des dossiers concernant MSC, un groupe de croisière détenu par les cousins de sa mère. Déjà visé par une enquête du parquet national financier, le bras droit du chef de l'État fait maintenant l'objet d'une deuxième plainte de l'association Anticor pour prise illégale d'intérêts. L'Élysée garde pour l'instant le silence, mais pour combien de temps ? Après l'affaire Benalla, le cercle rapproché d'Emmanuel Macron est encore une fois mis en cause. Pas de commentaire non plus à Matignon. Pourtant, Édouard Philippe a siégé aux côtés d'Alexis Koller au conseil de surveillance du port du Havre quand il était maire de la ville. Édouard Philippe était présent lors des délibération concernant MSC. Le Premier ministre se contente de saluer la très grande intégrité d'Alexis Koller.
Benjamin Stora, avant ce rebondissement dans l'affaire Koller, il y a eu l'affaire Benalla. Est-ce qu'on en a trop fait sur l'affaire Benalla ?
Vous savez, pour un historien qui est confronté à l'élucidation des grandes affaires d'État, effectivement, l'affaire Benalla peut paraître assez petite. Je pense en particulier à des grandes affaires d'État toujours non élucidées, l'affaire Ben Barka, l'enlèvement d'un opposant marocain dont on n'a jamais retrouvé le corps.
Le 29 octobre 65 à Paris.
Bien sûr. L'affaire Audin, ce mathématicien enlevé, séquestré, torturé, et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Ce sont des affaires d'État très graves avec mort d'homme. Là, on est confronté à des choses réelles. Et il n'y a jamais eu de commission d'enquête. Il n'y a jamais eu, le fait de faire passer tous les hauts fonctionnaires de la République sur ces affaires-là pour les auditionner, les entendre, leur réclamer, exiger, qu'ils s'expliquent sur toutes ces questions-là. Non, à ma connaissance, non, ça n'a jamais existé. Mais alors, plus récemment encore, bien sûr, avec avec la mort d'Adama Traoré. À ma connaissance,
ce jeune homme de 24 ans, hein, qui a été,
oui, à ma connaissance,
qui est mort dans les locaux de la gendarmerie après avoir été
arrêté,
interpellé, oui, à Beaumont-sur-Oise.
Il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire. Il n'y a pas eu le fait qu'aucun parti politique n'a exigé le passage, disons, devant la représentation nationale, des représentants de la police, de la gendarmerie, de la justice, de la magistrature, etc., etc., etc. Non, rien du tout. Donc, je crois que pour beaucoup de gens dans ce pays qui se taisent silencieusement, qui évoluent, il y a quand même des histoires à deux poids, deux mesures, quoi. Hein, c'est, alors ça veut pas dire que je veux minimiser l'affaire Benalla, bien sûr, c'est très important, mais quand même, il y a des affaires, des véritables affaires d'État qui n'ont toujours pas été élucidées.
En même temps, Emmanuel Macron avait promis pendant sa campagne une République exemplaire et force est de constater qu'elle ne l'est toujours pas, même si les affaires qui se succèdent ne sont pas donc forcément des affaires d'État. Est-ce que c'est aussi le résultat de la consanguinité, entre guillemets, des élites, cette spécialité très française sur laquelle vous vous attardez dans votre livre ?
Oui, je pense qu'il faut lever le voile hein, sur cette question du passage, de la circulation entre élite politique, élite financière, élite intellectuelle, élite institutionnelle. C'est cette espèce de circulation incessante par l'intermédiaire aussi des grandes familles hein, qui existent, qui se repassent les informations, les possibilités de rebondir d'un univers à l'autre, etc. C'est une grande révolution à accomplir dans ce pays, bien sûr. C'est ce qui appartient aussi, cette façon de procéder, à ce qu'Emmanuel Macron lui-même appartenait, appelait l'ancien monde.
Et est-ce que ces dérives sont liées à la professionnalisation de la politique ?
Entre autres, oui, parce que moi, j'ai assisté, par rapport à ma génération, bien entendu, et je le dis dans mon ouvrage, à cette sorte de dérive par professionnalisation du politique. C'est-à-dire, on ne travaille plus, on fait de la politique un métier exclusif.
Et ça, vous l'avez découvert, en fait, en 86, quand vous avez rejoint le Parti Socialiste.
Oui, oui, oui.
Là, moi, vous avez déchanté.
Assez vite, puisque je suis resté que 2 ans, moi, au Parti Socialiste, c'est tout. Et précisément à cause de ça, parce que moi, j'étais déjà enseignant, et moi, j'avais un salaire, et voilà, quoi, je travaillais. Et je découvrais, effectivement, qu'il y avait, par la politique, le moyen d'exister et de faire carrière dans l'appareil d'État, dans les partis politiques ou autres. Et là, j'ai été très surpris, parce qu'on s'était... Là, on était très loin des idéaux collectifs de l'après 68, c'était très très loin. Et je crois qu'effectivement les
et vous citez certains
dérives,
de vos camarades de l'époque
oui,
qui ont
oui,
mal évolué,
oui, qui sont restés des professionnels à vie hein, de la politique, qui sont rentrés très tôt en politique professionnelle dans à 28 ans, 27 ans, 30 ans.
Julien Drey,
oui,
Jean-Christophe Cambadélis,
Jean-Luc Mélenchon aussi, je crois, est resté sénateur très longtemps. Il a été ministre socialiste du gouvernement de Lionel Jospin de 97 à 2000. Ça, on l'a oublié aujourd'hui. Et ils ont été effectivement des professionnels de la politique pendant 30 ou 35 ans de leur vie, bien sûr.
Et ça participe aussi du désaveu, de la claque subie l'an dernier par le Parti Socialiste, que vous appelez le crépuscule du PS ?
Je crois que ça participe de cela, effectivement, parce qu'on peut pas... Parce que vous savez, maintenant, les gens sont très informés des biographies de chacun avec Wikipédia. Tout le monde fait ça. Dès qu'on veut rencontrer quelqu'un d'important, qu'on veut se renseigner, hop, on prend son portable et qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la biographie, le parcours, etc. Tout le monde fait ça. Donc, les gens sont hyper informés maintenant. Et le fait de découvrir que certaines personnes qui font des discours très radicaux ont l'audace de la radicalité parce qu'ils n'ont pas de besoins matériels et qu'ils sont à l'abri... Hein, de besoins matériels et qu'ils peuvent donc à partir de là prononcer des discours très radicaux. Eh ben les gens ils le savent et ça ils le supportent de moins en moins.
Je le disais au début de l'émission, le ton de votre livre est plutôt désenchanté. On parle souvent du sens de l'histoire. Est-ce que vous croyez néanmoins aux bonnes surprises que l'histoire avec un grand H peut nous réserver ?
Ah oui, mais bien entendu, ce qu'on peut voir lorsqu'on est historien en particulier, et pas simplement militant ou citoyen, c'est les ruptures d'histoire, c'est les bonnes surprises de l'histoire. Le fait que ce qu'on croyait acquis de manière inamovible se transforme brusquement. Il y a des passages d'histoire qui se terminent bien ou qui se terminent mal. Bah, l'exemple, bien sûr... des révolutions arabes, c'était une bonne surprise en 2011 qui se termine mal, hein, avec, on le sait, la Syrie, etc. Mais néanmoins, ça a été un ébranlement extraordinaire, parce que les personnages qui étaient au pouvoir, on l'a oublié aujourd'hui, étaient des personnages que l'on considérait comme étant à vie au pouvoir. Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte, c'était des personnages qui étaient au pouvoir depuis très longtemps, et rien, mais rien, ne donnait à penser que ces personnages allaient disparaître. Et pourtant, c'est ce qui s'est produit.
Et ils sont tombés assez vite.
Et ils sont tombés très très vite, à la grande surprise de tout le monde. Donc vous voyez, en histoire, les choses peuvent s'accélérer brusquement. C'est ce qui nous donne aussi cette confiance et cet optimisme dans l'histoire. Sinon, ce serait désespérant.
Mais pour la France, on ne voit pas trop les signes d'une nouvelle génération actuellement, si ?
Si, vous savez, il y a des tas de choses qui se passent, qui ne sont pas peut-être visibles, mais qui s'exercent dans différents domaines, en particulier dans le domaine artistique, dans le domaine créatif, par l'intermédiaire, bien sûr, des réseaux sociaux ou autres. Il y a énormément de jeunes qui fabriquent des choses, qui dénoncent, qui critiquent, qui s'organisent. On parlait tout à l'heure de la question des migrants. C'est un grand marqueur aujourd'hui dans la jeune génération. C'est-à-dire le fait de la solidarité exercée à l'égard des réfugiés, c'est un engagement très important pour plusieurs milliers de jeunes aujourd'hui. C'est pas très visible, bien sûr, mais ça témoigne d'un engagement et d'un respect vis-à-vis de l'autre et d'une ouverture au monde.
Merci beaucoup Benjamin Stora d'avoir été l'invité d'une semaine d'actualité. Je rappelle le titre de votre livre, 68 et après, chez Stock. Merci également à Sophie Janin qui a réalisé cette émission. On se quitte avec un morceau que vous avez choisi, Benjamin Stora, Painted Black des Stones. Ça nous ramène en 68. Bon week-end.
I could not foresee this thing happening to you.